Bonsoir à tous et merci d'être de votre présence. C'est un sujet de société que nous allons aborder ce soir. Alors avec deux auteurs, donc un binôme paritaire en plus, donc c'est parfait pour aborder ce livre, avec deux profils aussi différents. Hein. C'est d'ailleurs mentionné dans l'introduction, puisque les auteurs ont tenu à préciser en fait d'où ils parlaient. Hein, pour signaler en fait finalement la qualité de leur contribution hein, et les potentielles critiques d'ailleurs qu'il pourrait y avoir. Ils s'expriment d'abord et avant tout d'ailleurs comme citoyens, ils insistent là-dessus je crois, c'est-à-dire finalement l'idée qu'on est sur un problème qui doit être mis dans l'espace public, hein, c'est-à-dire cette question du numérique à l'école finalement n'est pas débattue ou assez peu, et la question c'est justement d'en faire un sujet de débat, et donc c'est toute la prétention finalement et toute l'ambition de cet ouvrage, avec donc deux auteurs, je disais, à deux profils différents, donc Philippe Biwix, qui est donc immédiatement à ma droite évidemment, qui est en fait un ingénieur centralien à l'origine, hein, et c'est quand même un point de vue du coup assez intéressant par le décalage en fait qu'il introduit, hein, puisque bon, un ingénieur, on peut s'attendre a priori à ce qu'il se fasse l'apôtre du progrès, le prophète finalement des temps à venir et le défenseur des nouvelles technologies. Il n'en est évidemment rien, et d'ailleurs, c'est pas son coup d'essai, hein, puisqu'il a déjà écrit à plusieurs reprises à la fois sur l'épuisement notamment des métaux et puis ensuite sur la question des low-tech, hein, donc. Comment les technologies finalement peuvent être lentes et réappropriées finalement et mises à échelle humaine. Et puis son binôme et sa compère en fait, Karine Movilly, qui en fait a eu une expérience d'enseignante. Hein, donc qui a démissionné. Donc là, on a, voyez, quelqu'un qui, disons, avait un pied clairement dans l'école et qui, du coup, a un point de vue aussi de l'intérieur hein, de cette institution. Et donc qui deux points de vue finalement très complémentaires, un point de vue plus sciences dures d'un côté, et un point de vue plus sciences humaines et sociales de l'autre, puisqu'en plus on partage le fait d'avoir fait des études d'histoire. Donc elle a cet angle aussi qui, à mon avis, est assez essentiel aussi, hein, au-delà des aspects techniques, évidemment, du sujet. Et donc, un livre au titre assez décapant et très clivant, en fait, hein, très, très clivant, « Le désastre donc, de l'école numérique ». Voilà, donc là, ça pose un peu les choses. Hein. Déjà, on voit bien l'orientation de l'ouvrage. Et ça, évidemment, le sous-titre « Plaidoyer pour une école sans écran ». Alors, le titre, effectivement, est, je disais, assez ravageur et très, très clivant, mais en même temps, quand on s'aventure dans le livre, alors bien sûr, c'est un style très dynamique, hein, c'est assez plaisant à lire, c'est un style très fluide, qui a un sort d'ailleurs un rapport assez direct, je trouve, avec le lecteur, et en réalité, le contenu est un petit peu plus nuancé, hein, c'est-à-dire que on n'est pas... bon, le titre, il va un peu à la hache, mais à l'intérieur... on s'aperçoit que c'est un petit peu plus ciselé et il y a des aspects positifs évidemment au numérique qui sont reconnus, qui ne sont pas développés. Ça reste un pamphlet et puis un objet finalement de débat puisqu'on est face à une forme d'idéologie dominante en matière technique hein, avec vraiment la volonté d'imposer le numérique à l'école. Et donc il s'agissait finalement d'être très clivant pour pouvoir quelque part assurer l'équilibre hein, entre ces deux points de vue. C'est ça finalement, je pense, qui fait ce titre. Et puis en même temps, cette orientation donc, du livre qui finalement, si je devais le résumer, pose la question de comment finalement on essaye d'apporter une solution technique à un problème qui en fait est d'abord politique et pédagogique ensuite, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire que finalement, là où on constate un problème à l'école, je crois que là, désormais, c'est assez reconnu. Ça ne veut pas dire que l'école n'a pas des opportunités, des choses très positives qu'elle apporte, bien entendu. Il n'empêche que, de la vie générale, et quand on écoute les uns et les autres, on constate une forme de problème, finalement, et à assurer certaines transitions. Et face à cela, finalement, le numérique serait la solution miracle qui s'imposerait à tout un chacun. Et donc, on mise sur l'innovation technologique, là où on devrait œuvrer, finalement, c'est la posture des auteurs, se fonder davantage sur l'innovation technologique. Alors, pour cette critique de l'école numérique, je vais peut-être leur laisser la parole avec une première question, finalement. Une question d'histoire, d'ailleurs, hein, puisque cette velléité, finalement, d'imposer une innovation technologique pour résoudre un problème pédagogique n'est pas nouvelle. Il y en a des exemples nombreux dans l'histoire. Et du coup, peut-être que vous pourriez les développer un petit peu, montrer les trajectoires, en fait, des précédentes innovations, comment elles se sont terminées aussi, et nous expliquer tout cela par analogie.
OK, merci, Timothée. Donc, j'attaque cette partie-là. Oui, effectivement, ce qui est assez rigolo, peut-être les plus anciens ou les gens à minima de ma génération se souviennent peut-être des plans informatiques pour tous, des équipements dans les collèges et les lycées dans les années 80 et même dans les années 70. Donc, je vois en fonction de l'âge de chacun ou chacune, il y en a peut-être qui ont pratiqué le TO7 de Thomson à l'époque à laquelle on essayait de refaire un peu de relance industrielle en même temps qu'on équipait l'école et qu'on préparait la jeunesse aux enjeux futurs de l'informatique. On parlait encore d'informatique d'ailleurs à l'époque, pas encore de numérique ou de digital. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est, remonté beaucoup plus loin que ces plans d'équipement technologique. On retrouve en fait un discours technopédagogique, donc sur la capacité à révolutionner l'école par la technologie, dès la fin du 19e siècle. Alors, à la fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'on a comme technologie qui va révolutionner l'école? C'est les lanternes magiques. Vous voyez, donc c'est un peu l'ancêtre du logiciel PowerPoint et donc, dès cette époque-là, les fabricants de lanternes magiques, parce que c'est évidemment toujours les fabricants qui sont un peu, qui font partie des premières personnes qui recommandent d'adopter ces technologies, hein, évidemment, ça permet d'ouvrir des nouveaux marchés, ils organisent comme ça des colloques, ils font des démonstrations. Et on trouve des textes sur tout l'intérêt de la lanterne magique qui va remotiver les élèves, qui va les passionner, qui va permettre d'enrichir les contenus, etc. Donc déjà des discours qu'on va pouvoir retrouver aujourd'hui. Et alors pendant tout le XXe siècle, on va comme ça on va passer d'une technologie à l'autre avec toujours les mêmes discours et les mêmes arguments qu'on retrouve absolument aujourd'hui dans l'école numérique. Alors ça va être... Au début du XXe siècle, ça va être Edison, par exemple, avec lui, il est fabricant de projecteurs cinématographiques. Donc, ça va être le cinéma éducatif. Et il promet qu'en fait, on va passer comme ça à 100% d'efficacité grâce au cinéma à l'école. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, 100% d'efficacité. Il dit comme ça, les manuels, c'est 2%. Et moi, avec le cinéma, on va passer à 100%. Et il prédit la fin du livre. Alors, la fin du livre n'arrive pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a une autre technologie qui arrive. Et ça va être la radio. Alors, il y a la radio, il y a la télévision qui va prendre la place de la radio dans les années 50. Alors là, l'argument de la radio et de la télévision, c'est les arguments qu'on retrouve sur les MOOC. Aujourd'hui, vous savez, les cours massifs en ligne. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore le collège, mais c'est plutôt l'université, mais c'est en train d'arriver à l'école aussi. Alors là, c'est quoi? C'est on va pouvoir donner aux élèves la possibilité de suivre les cours des meilleurs professeurs. Hein, puisque évidemment, par radio, tout le monde peut écouter un cours magistral du meilleur professeur de chimie des États-Unis, etc. Et puis, on va arriver dans les années 60 à des sortes de dispositifs un peu électromécaniques qui sont des machines à enseigner, qu'on appelle des machines à enseigner. Il y a d'ailleurs un débat sur est-ce que les professeurs vont disparaître dans les années 60. Il y a comme ça des journaux qui titrent comme ça les robots vont-ils faire disparaître les professeurs, etc. Alors les machines à enseigner, c'est en gros, ça permet de faire des questionnaires à choix multiples. Mais aujourd'hui, on est exactement sur la même logique avec des logiciels dont on explique, hein, c'est ce qu'on appelle l'adaptative learning, où on a des logiciels qui permettent comme ça de réviser les cours, etc. Et la machine, évidemment, ne se lasse pas de vous poser des questions jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. Et donc, on espérait déjà ça dans les années 60. Et puis évidemment, après, c'est l'informatique qui va prendre les choses. Et donc, on trouve toujours cette même, quelque part, on pourrait dire presque crise de l'école, hein, parce qu'on parle déjà de démotivation des élèves, etc. Il y a plusieurs décennies de ça, largement, ça ne date pas d'hier. Et à chaque fois, en fait, on va venir poser une réponse technologique plutôt qu'une réponse pédagogique ou autre. Et évidemment, à chaque fois, ça va faire pchit. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Les réponses, les promesses attendues Les espérances vont être évidemment déçues parce que personne n'a jamais... les machines à enseigner n'ont pas remplacé les professeurs et on n'a jamais appris mieux avec, avec des magnétoscopes dans les années 80 ou avec la radio dans les années 30. Et alors, il y a des bonnes excuses à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que les professeurs n'ont pas été assez formés ou alors ils ont renaclé, vous voyez, ils n'étaient pas d'accord. Ou alors, on n'a pas eu assez de ressources. On n'a pas... Hein. Et donc, évidemment, on se promet à chaque fois de corriger ça la prochaine fois. Mais effectivement, il ne faudrait pas croire que l'école numérique, c'est quelque chose qui tombe du ciel, parce que ça y est, la société numérique, c'est formidable. Et on a, grâce à cette loi de Moore là, qui augmente de manière incroyable, exponentielle, les capacités de calcul, les logiciels, etc., on ne s'est pas tombé du ciel. En fait, on fait de la technopédagogie depuis 150 ans. Et le plan numérique n'est qu'un énième ressurgissement de ce fantasme.
Donc, par rapport à cette histoire, on voit bien finalement qu'il y a une trajectoire qui est un petit peu toujours la même. Hein. Donc, la solution technologique et puis finalement, l'échec au bout, en sera-t-il de même avec la question de l'école numérique ? Ça, c'est ce qu'on pourra voir plus tard. En tout cas, vous abordez très clairement l'échec, disons, pédagogique, en fait, de ces différents modes, finalement. Et ça, j'aimerais que vous développiez un petit peu, assez concrètement, là-dessus, parce que... Et d'ailleurs, vous faites des distinctions à des moments, par exemple, entre ce qui est de l'ordre de la tablette individuelle et du tableau numérique. Déjà, ce n'est pas du tout le même objet, et ça n'a pas du tout les mêmes impacts, en fait, sur la classe. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu ces aspects-là ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut peut-être préciser un peu le champ de ce qu'on entend par école numérique. Hein, ça recouvre plusieurs aspects. On pense généralement à la tablette, puisqu'il y a le plan tablette lancé par François Hollande en 2014. Mais en réalité, c'est plus large que ça. L'école numérique, c'est l'introduction des tableaux blancs interactifs au primaire et dans certaines classes de collège. C'est l'usage par les professeurs de logiciels de façon obligatoire maintenant pour marquer les devoirs sur le cahier de texte numérique, pour noter les notes sur un logiciel qui s'appelle Pronote. C'est l'usage des ENT, donc ces espaces numériques de travail sur lesquels il faut dorénavant échanger avec les parents, éventuellement avec les élèves, avec ses collègues. Donc voilà, c'est l'introduction de gestes numériques supplémentaires pour les professeurs. Ce sont donc les classes mobiles, ce qu'on appelle les classes mobiles. Ce sont des chariots de tablettes qui peuvent passer de classe en classe et où on distribue une tablette pour deux élèves. Et puis donc ces tableaux blancs interactifs au primaire. Donc si on veut parler des impacts pédagogiques, hein, essayer de mesurer un peu leur efficacité, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas de recul encore hein, dans le temps. Les promoteurs du numérique, donc, qui sont à nouveau des vendeurs d'électronique, tout comme on avait les vendeurs de lanternes magiques ou de télévision, déroulent la liste des avantages pédagogiques alors qu'ils ne sont scientifiquement pas prouvés aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à la recherche d'études qui essayent de mesurer les impacts. On n'en a pas tellement trouvé en France, peut-être parce que la recherche française manque de moyens ou s'intéresse peu à ce sujet. En revanche, la recherche américaine est très riche en études sur ce point. Et on trouve des études qui essayent de faire le lien. Par exemple, le fait que prendre des notes à la main est plus efficace pour commencer à mémoriser et pour commencer à apprendre que dactylographier quelque chose. Hein, puisque un élève avec une tablette, il va être amené à taper un résumé ou un petit texte qu'il doit élaborer lui-même, à le taper sur sa tablette ou à prendre des notes sur sa tablette. Or, le fait de noter à la main, eh bien, le processus mental, c'est que l'on reformule ce que dit l'enseignant. Et on a tendance à moins paraphraser ce que dit l'enseignant. Et dans cette reformulation, on commence à apprendre. Donc ça, c'est une étude assez instructive sur ce point. Le résultat de cela, c'est l'enquête PISA 2012. Donc cette enquête PISA qui est très observée par les pouvoirs publics, puisque le but, c'est de gagner des points dans le classement international. Hein. PISA, c'est le suivi international des acquis des élèves. Hein. On mesure leurs compétences en compréhension de l'écrit et en mathématiques. Il se trouve qu'en 2015, donc l'OCDE, l'organisme qui commandite cette étude, a repris les résultats de PISA 2012 et les a comparés à la numérisation des systèmes scolaires. Et ce qu'il apparaît de façon surprenante, c'est que plus les systèmes scolaires sont numérisés, plus les performances des élèves baissent. C'est-à-dire, quand on fait le bilan au bout de 10 ans de numérisation des systèmes scolaires, on se rend compte que les pays qui ont fait le plus d'efforts de numérisation de leur système scolaire ont vu leurs résultats baisser. Alors, ce résultat, il est important. Il a été peu pris en compte, peu commenté. Et au moment où il sortait, eh bien, le plan tablette était lancé. Donc, on voit vraiment là qu'il y a eu un jeu de lobby très important. Qui n'a pas pris en compte les premiers résultats qu'on pourrait qualifier de scientifiques, même si certains remettent en cause la pertinence de PISA. Donc voilà, il y a ce résultat PISA, il y a ces différentes études scientifiques qui commencent à sortir, et aujourd'hui, l'efficacité pédagogique du numérique, elle n'est pas prouvée.
Alors, pour rebondir un peu sur votre dernier propos, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs d'abord, avant d'aborder aussi les questions écologiques et sanitaires aussi autour, et même géopolitiques d'ailleurs, parce qu'il y a des enjeux évidemment autour des minerais. Mais avant d'aborder cela, peut-être qu'on peut rebondir sur ce que vous venez de dire à propos des lobbies, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des aspects économiques et sociaux importants, au fond, autour de cette école numérique, aspects économiques et sociaux qui prennent la forme, effectivement, de lobbies, c'est-à-dire que derrière, il y a des multinationales, vous allez pouvoir en parler, la question aussi des effets économiques et sociaux en termes d'emploi, hein, par exemple, ou même vous évoquez, alors j'ai trouvé ça très intéressant, la trahison des enseignants du primaire et du secondaire par les universitaires. Peut-être que vous pourriez développer cet ensemble de points hein, sur les questions, économiques et sociales.
Sur l'aspect social, bon, y a plein de choses à raconter parce qu'il y a du social et ici et ailleurs. C'est-à-dire que les tablettes, elles sont aussi fabriquées par des gens en Chine qui sont employés par des néo-esclavagistes et de temps en temps, ils se font prendre avec du travail des enfants. Donc, vous voyez, tous les enfants ne vivent pas l'école numérique de la même manière. Mais laissons ça de côté et restons chez nous dans un premier temps. Aujourd'hui, quand vous regardez à nouveau les gens qui se projettent le plus loin sur la question du numérique à l'école et la transformation de l'école par le numérique, comme le numérique d'ailleurs transforme plein d'autres aspects de la société, hein, les services, etc. Vous avez peut-être vous n'allez plus dans vos agences bancaires et vous avez ouvert un compte en ligne. Eh bien, de la même manière, à l'école, le numérique va transformer. Et ce que disent les promoteurs du numérique, c'est qu'on va aller vers une évolution, un équilibre entre ce qu'ils appellent, parce qu'ils aiment bien, on aime beaucoup les néologismes dans les rapports officiels, le présentiel, alors désolé pour ce mot affreux, mais qui veut dire en gros, vous avez un vrai prof en face de vous, en classe, et l'e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage électronique, c'est-à-dire on va mettre les élèves devant des écrans, virgule, tout seul, puisque le progrès de l'intelligence artificielle fait qu'on va bientôt avoir des e-professeurs qui peuvent vous répondre, interagir, comprendre une question, etc. Et si vous allez un petit peu vous promener sur les moteurs de recherche, etc., vous pouvez voir où les sites de traduction, enfin, on voit qu'effectivement, ça progresse à toute vitesse. Et donc, on est en train de s'orienter vers quelque chose qui pourrait être du type, par exemple, là, c'est des chiffres qu'on a pu entendre, 50% de présentiel, 50% d'e-learning. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, 50% de présentiel, 50% d'e-learning? Ça veut dire que les enfants, concrètement, à l'école, si tant est qu'ils y aillent encore, parce qu'il suffira peut-être qu'ils chaussent leur casque de réalité virtuelle à la maison, passeront 50% de leur temps devant un écran, seul, avec des logiciels. Il faut savoir qu'il y a des pays, des États, par exemple, aux États-Unis, la Floride, des choses comme ça, qui sont assez en avance et qui mettent effectivement les enfants, alors ils sont un petit peu plus grands, c'est plutôt du type lycée, mais devant des écrans. Alors ça a un impact social, effectivement, potentiellement. C'est que si vous divisez par deux le nombre d'heures où il y a besoin de mettre un prof, vous avez deux solutions. Soit vous dédoublez l'ensemble des classes pour l'ensemble des autres matières, on pourrait espérer que ça soit ça, et vous conservez le même nombre de profs. Soit vous avez quelques tensions pour boucler votre budget, et vous commencez à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, etc. Et donc, voilà, on peut imaginer, faites le calcul sur le nombre de gens qui travaillent dans l'éducation nationale, et imaginez que 50% des cours puissent être faits sur ordinateur. Alors évidemment,
800 000 profs, voilà. Ça ferait 400 000 emplois.
Alors ce n'est pas pour demain matin, bien sûr, tout ça va aller tranquillement, mais on est en train d'installer les techniques, les possibilités, les usages qui vont permettre d'aller vers ça. D'accord ? Et donc finalement, l'école numérique, c'est aussi un combat de l'humain et de la machine, quoi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de laisser mes enfants à l'école ou mes petits-enfants, peut-être pendant 4 heures ou 5 heures devant un écran, et puis 2, 3, 4 heures devant quelques animateurs sympathiques qui vérifieront que le Wi-Fi marche bien. Ou est-ce qu'on a envie d'avoir encore une logique de transmission, hein, c'est ce qu'on a appelé un peu pompeusement un fondamental anthropologique sur la question de la transmission d'humain à humain, c'est-à-dire voilà, j'apprends quelque chose alors, qui ne passe pas forcément toujours par le cours magistral, hein, ce n'est pas la question. On viendra après sur les idées non numériques pour faire évoluer l'école. Mais voilà. Donc il y a un vrai sujet. Alors pourquoi trahison sociale de... Alors tous les universitaires, ce n'est pas tous les universitaires, attention, on ne veut pas créer un clivage entre... les universitaires et les profs du primaire et du secondaire. Il y a d'ailleurs des universitaires qui se battent contre la numérisation de l'université, qui a un autre enjeu, un autre sujet. Hein. Alors là, je pense qu'on peut pratiquer l'écran à l'université, et là, c'est nécessaire pour la recherche, en échange des choses, etc. Mais là aussi, hein, il y a un grand mouvement vers les humanités numériques, etc., qui n'est pas l'objet du livre, hein, qui a été concentré sur la question plutôt du collège, du primaire, du lycée. Donc la trahison sociale, bah, c'est de dire, moi, universitaire spécialiste des nouvelles pédagogies numériques,
chercheur en sciences de l'éducation.
Voilà. Je recommande d'installer au plus vite des choses qui vont permettre de détruire le job des autres, mais surtout pas le mien. Hein. Ça, c'est toujours quand même assez sympathique. Et deuxièmement, je recommande aussi des pratiques, comme par exemple le Bring Your Own Device, là. Hein, donc c'est... On va faire travailler les élèves avec leur propre téléphone, typiquement, ou leur propre tablette. Et alors, ces gens-là, ils n'ont jamais mis les pieds dans une classe, parce que si vous demandez aux élèves dans une classe de sortir leur téléphone et puis de démarrer le cours, vous imaginez l'anarchie, le truc, et puis la société du multitâche dans laquelle on vit, qui fait qu'on va tout de suite aller pianoter sur les réseaux sociaux et autres. Bon, voilà.
Mais ce mouvement BYOD, là, donc Bring Your Own Device, il est porté par certains membres du rectorat dans certaines académies. Enfin, c'est un vrai programme théorique, hein, qui est porté par des universitaires, des institutionnels. Et le but, à terme, c'est de faire des économies. Parce que si non seulement on peut faire l'école numérique, mais en plus demander aux élèves d'apporter leur propre matériel, vous imaginez la double économie. Mais comme tu le dis, ce sont des gens qui n'ont jamais fait cours et qui n'ont jamais eu face à eux... des élèves équipés qui ont clairement avec eux des caméras, hein, qui sont donc capables de filmer des classes, filmer des camarades, filmer des professeurs, et puis de mettre en place toutes sortes de vidéos très instructives pour leurs camarades sur le thème comment pourrir un cours. Hein. C'est quand même maintenant un sport national. Donc voilà. On a ce mouvement BYOD qui gagne du terrain et qui n'est pas très raisonnable.
Alors les lobbies.
Un petit mot sur les lobbies, effectivement. Ils ont une importance capitale dans ce système. Hein. On a parlé de François Hollande et de son plan tablette. Donc la numérisation ne date pas de François Hollande. Elle existait avant lui et elle durera après lui. Mais il a, en novembre dernier, rencontré le patron de Microsoft International, qui est venu le rencontrer à Paris, hein, tout spécialement. Et quand ce monsieur se déplace, ce n'est pas juste pour une visite de courtoisie. En général, c'est pour vendre du matériel et en masse. Effectivement, peu de temps, 2-3 semaines après sa venue, un contrat a été signé entre Microsoft et l'Éducation nationale, par lequel Microsoft proposait ses solutions éducatives à l'ensemble des écoles de France, proposait un certain nombre donc, de logiciels, son cloud, pour 13 millions. Mais ces 13 millions, c'est Microsoft qui les a mis sur la table en disant nous investissons dans l'école française 13 millions sous forme de formation d'enseignants. Nous allons les former à former les élèves au code. Nous allons les former à utiliser nos logiciels. Et beaucoup d'enseignants se sont insurgés contre ce contrat, qui n'en était même pas un, puisque c'était un don par Microsoft. Parce que l'enjeu, c'est bien d'introduire une technologie fermée, une technologie payante, auprès d'un public captif, hein, qui serait les élèves et les enseignants. Et effectivement, quand vous commencez à utiliser un système, eh bien, à la maison, vous utilisez le même. C'est très difficile de passer d'un système à l'autre. Et donc, eh bien, il y a de la part de cet industriel une sorte d'entrisme dans l'école, afin ensuite d'entrer chez les particuliers. sachant qu'en France, il y a 12 millions d'élèves, donc 800 000 profs. Donc vous imaginez bien qu'il s'agit là d'un marché qui a généré donc, cette visite du patron de Microsoft.
Peut-être juste un point complémentaire sur les lobbies, c'est qu'en fait, les lobbies en tant que tels qui sont puissants et efficaces, hein, effectivement, ne suffiraient pas en tant que tels. C'est la conjonction d'un certain nombre de choses. Alors, c'est les lobbies, c'est effectivement des universitaires ou des chercheurs qui sont à l'affût de publications et ou de financements. Ce sont aussi des politiques, des responsables de collectivités territoriales, etc., qui rentre dans le mouvement général parce que finalement c'est un peu stressant d'être grincheux ou de risquer de passer pour ringard ou de dire attendez non le numérique à l'école non et de dire bah attendez vous inscrivez pas dans la modernité, il faut préparer les enfants, etc. Donc c'est l'ensemble de tous ces éléments là et puis peut-être des professeurs aussi qui subissent des réformes à rythme rapide. Et donc, finalement, à un moment, il faut choisir aussi ses combats. Donc, une de plus, une de moins. Bon, ma foi, hein. Là, vous savez, faut, à l'école primaire, en CM1, maintenant, il faut avoir des cours de programmation. Alors, personne ne sait comment ce qu'il faut faire, comment ça va être, sur quel logiciel, personne n'est formé. Mais ça y est, on a dit dans le plan numérique, il faut faire des cours de programmation. Bon, voilà, donc ça va aussi un peu à son rythme de temps en temps. C'est l'ensemble de ça qui fait que, finalement, on y va avec un rythme forcé. C'est le pas de charge et c'est le bulldozer.
Alors, au-delà, là, on a bien fait le tour, finalement, de la critique sociale que vous opérez. Il y a aussi une critique écologique, hein, et d'ailleurs, je pense on peut formuler ainsi, vous appartenez, disons, ce livre, en tout cas, appartient au mouvement, on va dire, de la décroissance, hein, quelque part, c'est-à-dire que la question des ressources, notamment, et de l'épuisement des ressources, est au cœur aussi de cette critique et de cet ouvrage, puisque derrière, bien entendu, c'est ce plan numérique, il y a aussi des composants à construire, il y a des infrastructures à nourrir, à alimenter en énergie, notamment. Il y a, bien entendu, des déchets. Et sur le plan sanitaire, évidemment, de nombreux questionnements, que ce soit, évidemment, au niveau des ondes, au niveau... vous évoquez la question du sommeil aussi. Enfin bon, pas mal d'aspects comme ça qui se retrouvent donc dans cette critique écologique et que vous pourriez peut-être développer à nous.
Alors je vais balayer assez vite la question écologique. Et puis,
même si elle est centrale.
Même si elle est très importante, mais on l'a traité dans le livre, hein, mais c'est pas notre point de départ. C'est-à-dire que si le numérique était vraiment merveilleux, permettait de mieux apprendre, d'avoir des enfants épanouis, collaboratifs, plus performants, etc., bon, et qu'il y avait des conséquences environnementales, bon, bah, on pourrait s'asseoir dessus. On pourrait dire, ouais, tout le monde est content d'avoir du numérique chez le dentiste ou je ne sais pas, à l'hôpital. Et puis, bon, bah, voilà, on pourrait dire qu'il y a des usages fort utiles de ce progrès technologique. Le problème, c'est que là, on n'apprend pas mieux. On apprend même probablement moins bien. Et... effectivement, on a des conséquences sanitaires, des risques psychosociaux, etc., donc Karine va nous parler, qui sont extrêmement importants. Mais bon, en quelques mots, sur la question du numérique à l'école, c'est vrai que c'est un peu pitoyable, je dirais, de voir, par exemple, qu'il y a des programmes zéro papier, enfin, on dit que c'est super, le numérique, on va éviter d'imprimer des manuels scolaires et je sais pas quoi, et puis le logiciel Pronote, ça va éviter d'imprimer des bulletins sur papier. Des arguments totalement pitoyables, puisqu'évidemment, ça rentre dans la question du mythe de la dématérialisation du monde, alors qu'effectivement, le numérique n'a jamais été aussi matériel. Il est composé de centres de données qu'il faut alimenter, qu'il faut refroidir. Il est composé de minerais qu'il faut effectivement récupérer à gauche et à droite. Il crée des déchets électroniques absolument ingérables. Il faut savoir que, juste pour prendre cet exemple-là, 85% des déchets électroniques partent soit en incinération, soit en décharge. On ne sait pas les récupérer correctement. Et les 15% qui partent dans la filière à peu près correcte, il y en a toute une partie qui part en fait sous forme d'export de faux matériel d'occasion qui part en Afrique de l'Ouest, en Chine, en Inde, pour être démantelé dans des conditions effroyables. Et le peu qui reste, eh ben, on n'arrive pas qui va dans des usines effectivement de classe mondiale, on n'arrive pas à récupérer correctement ce qu'il y a dedans, parce que quand il y a 40 métaux dans un smartphone ou dans une tablette, on ne sait pas faire ça correctement. Donc effectivement, on est, et la course en avant et tout le problème, disons, du... du numérique par rapport au manuel ou par rapport à d'autres supports, par rapport à la carte de géographie que vous trouvez maintenant dans les brocantes, hein, dans les étages du mur, faut mettre ça au tableau numérique maintenant. Ben, la différence, c'est effectivement c'est la durée, quoi, parce que on est dans une course. Enfin, l'équipement, on essaye d'équiper chaque collégien d'une tablette. Il y a 3,3 millions de tablettes, donc ça, c'est pas négligeable hein, par rapport au marché français, on pourrait dire. Et avant même qu'ils soient tous équipés, on sait déjà qu'on va passer à un autre support, parce que l'obsolescence technique, le progrès, en tout cas les évolutions technologiques font que ça sera autre chose. Donc l'école, qui est une très grosse machine, elle part dans cette logique-là, mais elle n'arrivera pas à tenir le rythme de l'équipement, et donc elle aura toujours en plus un train de retard. Alors que le manuel, la carte, bon, effectivement, la géographie évolue de temps en temps, en ex-Yougoslavie et je ne sais pas quoi, bon, très bien, ou aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Mais bon, c'est pas à la même vitesse que l'ouragan technologique schumpeterien, hein, qui fait que voilà, les innovations viennent balayer très rapidement les équipements existants. Le sanitaire.
Oui, l'aspect sanitaire.
qui est du coup celui-là, pour moi, vraiment un sujet central. C'est-à-dire mm-hmm. On n'apprend pas mieux. Par ailleurs, ça pollue, bon, très
les,
bien.
Les aspects écologiques aussi, voilà. Philippe, sont centraux, puisque l'école aujourd'hui veut former les élèves au développement durable. Et qu'il y a là, une certaine ironie à aller enseigner le développement durable sur des tablettes qui, dans 2 ou 3 ans, seront des déchets. D'une part, parce qu'il est prévu que les tablettes ne soient pas passées d'un élève à l'autre, hein, mais vont faire seulement un élève, alors qu'un manuel peut être passé à 5, 6, 7 élèves de suite, et d'autre part parce que les tablettes, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu des collégiens jeter leur cartable dans la cour, c'est tout à fait normal, hein, c'est un geste naturel pour un enfant de 12 ans, une tablette n'y résiste pas. Donc très rapidement, vous avez des écrans cassés, des écrans brisés qu'on va retrouver aussi sur les smartphones. Donc voilà, c'est un objet scolaire qui devient rapidement un déchet. Alors, sur l'aspect sanitaire, il y a de nombreux impacts des écrans au sens large. Et peut-être que le premier qu'on peut citer, c'est celui sur la vue. Les écrans ont tendance à augmenter les cas de myopie dans les classes. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que la myopie se développe davantage quand on reste à l'intérieur. C'est le manque de lumière naturelle qui va augmenter les cas de myopie. Donc la lecture intensive d'un livre dans la pénombre va augmenter votre myopie. Mais aujourd'hui, c'est bien la fréquentation des écrans qui fait que les enfants ne vont plus jouer à l'extérieur. Hein, ils jouent beaucoup moins dans les jardins, ils ne jouent plus quasiment dans la rue parce qu'on considère que c'est très dangereux. En revanche, les laisser seuls dans leur chambre avec Internet ou un téléphone, on considère ça bizarrement moins dangereux. Et pourtant, c'est également dangereux même au niveau de la vision. Il y a également des impacts sur la rétine, hein, des impacts à long terme, et cette fois-ci, qui sont également irréversibles, puisque certaines études montrent un impact de la lumière bleue qui est présente dans les LED. Les LED, ces ampoules hein, qui équipent les objets connectés, un impact agressif donc pour la rétine, en particulier des plus petits avant 10 ans. Donc ces aspects devraient sans doute être pris en compte par l'école. Il y a également les impacts sur le sommeil. De plus en plus d'études montrent la relation entre la fréquentation des écrans et des sommeils de plus en plus hachés chez les adolescents. D'une part parce qu'ils arrivent moins à s'endormir quand ils ont fait de l'écran le soir, et d'autre part parce que beaucoup laissent leur portable dans leur chambre ouvert la nuit et reçoivent des messages la nuit, voire mettent des réveils pour se réveiller à certaines heures et intervenir sur des réseaux sociaux ou jouer en ligne à des jeux vidéo. Donc là, effectivement, on peut se dire, ça, c'est dans des familles où il n'y a vraiment aucun contrôle parental. Malheureusement, on est dans le domaine de la chambre de l'enfant, un domaine qui n'est pas toujours contrôlé. Et beaucoup d'enfants utilisent maintenant ces objets à l'insu des parents. Donc, voilà. Et le sommeil est extrêmement corrélé à la réussite scolaire. Hein, on sait qu'aujourd'hui, un des critères fondamentaux de réussite scolaire, c'est un bon sommeil de 8 ou 10 heures par nuit à l'adolescence. Autre impact sanitaire à signaler, c'est celui des ondes électromagnétiques. Là, il y a beaucoup d'incertitudes, mais l'OMS a classé les ondes électromagnétiques comme cancérogènes possibles pour l'homme. Plusieurs institutions françaises ont confirmé ce classement. Voilà, il n'y a pas de principe de précaution qui soit appliqué par l'école, ce qui semble un peu étonnant. Au contraire, on développe un numérique en Wi-Fi et non pas un numérique filaire. On pourrait au moins imaginer un numérique filaire à l'école, ce qui était le cas des anciennes salles informatiques collectives. Mais aujourd'hui, le plan tablette est bien un numérique en Wi-Fi. Avec donc tous les problèmes liés à ces électrofréquences. Qu'est-ce que c'est l'impact ? C'est un impact sur le cerveau, avec des risques de tumeurs du cerveau pour un usage trop important. Voilà, encore bien d'autres...
Ouais, peut-être juste un complément sur, parce que, sur l'aspect... Donc, quelque chose qui n'est pas dans le livre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a sorti en juillet 2016 un rapport qui s'appelle « Électrofréquences et enfants », je ne sais plus exactement le titre, mais bon, on trouve facilement ça sur Internet. Aujourd'hui, pour les plus jeunes, pour les plus petits, l'usage des alors on ne sait pas encore si c'est les électrofréquences ou si c'est l'usage lui-même, mais il y a un impact pour les enfants les plus jeunes sur la mémoire, sur les fonctions d'exécution, enfin c'est sur vraiment la construction cognitive de l'intelligence, sur l'attention aussi. Alors c'est marrant parce que justement, on sait qu'on vit une crise de l'attention, mais en même temps, on dit pour résoudre cette crise de l'attention, on va mettre des écrans, alors que c'est sans doute les écrans et la société du multitâche qui fait nos enfants un petit peu papillonnants. Voilà. Donc effectivement, ce qui est terrible dans cette école numérique, c'est que on sait que nos enfants passent déjà trop de temps sur les écrans en dehors de l'école, et on s'apprête avec l'école numérique, à rajouter du temps d'écran, d'une part. Donc, imaginez le nombre d'heures quand on aura donc, les logiciels et des cours numériques, plus le visionnage de vidéos de classes inversées ou que sais-je, des profs ou de trucs à regarder à la maison pour préparer les cours, plus les réseaux sociaux et les jeux. Ça fait combien d'heures par jour pour les enfants ? Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que l'école numérique, vis-à-vis des parents, vis-à-vis peut-être d'ailleurs des parents qui ont le moins d'attention parentale, on pourrait dire, elle vient légitimer l'usage de l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des écrans à l'école, donc l'écran, c'est bien. Et l'écran incite, enfin l'école incite à se connecter le soir. Hein. Il faut aller regarder sur le cahier texte numérique, sur le NT, les notes qu'on a, les devoirs qu'il y a à faire, il faut faire des recherches Internet, etc. Et donc, on sait bien malheureusement que quand on se connecte sur Internet, on ne va pas juste y faire ce qu'on a prévu d'y faire. On va aussi jeter un petit coup d'œil, je ne sais pas, aux news, aux machins, aux réseaux sociaux, etc.
Ouvrir 5 ou 6 fenêtres en même temps.
Voilà. Hein, et donc, c'est ça le problème.
Donc, l'attention, elle est divisée par 6, en fait. Et voilà. Donc, on a 1/6 sur les devoirs. C'est ça le problème.
Au lieu d'avoir une école voilà, qui va venir finalement alerter ou être une corde de rattrapage sur cette société dont on ne peut rien faire. L'évolution de la société est comme ça. Elle est de plus en plus numérisée. Très bien, bon, OK. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un fait. Ben, au lieu d'être en fait une corde de rappel ou quelque chose qui permet effectivement à des enfants de vivre sereinement leur enfance et leur adolescence, et ben on va avoir quelque chose qui va venir en rajouter. Voilà. C'est ça le problème essentiel.
On voit bien effectivement le hiatus aussi qu'il peut y avoir au sein des écologistes en général, hein, ou du mouvement écologique. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez avoir, par exemple, vous en parlez hein, dans le livre Michel Serres qui va évoquer Petite Poucette, hein, avec une figure un peu un mythe presque qu'il construit autour des nouvelles générations qui sont des digital natives, donc qui sont nés, selon lui, avec un smartphone dans la main, en gros. De l'autre côté, des gens qui, effectivement, vous faites partie, qui considèrent que ce n'est pas, finalement, il ne faudrait pas asseoir le primat de la technique sur nos vies, son autonomie, hein, aurait dit les locaux de l'étape, à savoir Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, par exemple, hein, puisque la critique de la technique a été particulièrement développée en Aquitaine, ou Nouvelle-Aquitaine, non ? Toujours est-il, on voit bien, effectivement, qu'il y a des projets, finalement, de société, voire de civilisation même, qui sont assez concurrents. Et derrière, vous faites une proposition, c'est-à-dire, et d'ailleurs c'est très intéressant, il y a 30 pages quand même sur le sujet, c'est-à-dire des pistes pour une école sans écran, où vous développez un certain nombre finalement de pistes d'innovation pédagogique hein, qui pourraient être mises en place et qui elles aussi dessinent une autre société justement, hein, parce que votre entrée c'est le numérique bien sûr, enfin c'est l'école bien sûr, mais vous critiquez derrière aussi toute la civilisation numérique en fait. Hein, donc est-ce que vous pourriez développer finalement ces pistes pédagogiques et quel sens elles ont ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que on n'a pas voulu faire un traité de pédagogie, ni donner des recettes toutes faites, parce que il y en a beaucoup des traités de pédagogie par les temps qui courent, et certains sont très bons. On a simplement voulu souligner le fait que l'innovation n'a pas besoin d'être numérique. Pendant des millénaires, elle ne l'a pas été, et ça n'a jamais empêché d'innover. Et que depuis 100 ans, les enseignants innovent perpétuellement, tous les jours dans les classes, et qu'on a donc un vivier de bonnes solutions qui sont là à portée de main et qui n'ont pas besoin d'objets médiateurs entre l'enseignant et l'élève. Donc dans ces propositions, la grande proposition, on va dire, c'est celle de l'école sans écran avant 15 ans. Hein, voilà, ça c'est... c'est un peu notre idée, on va dire, notre axe. Hein. Mais au-delà de ça, c'est simplement des pistes qui sont tracées, qui ne choisissent ni entre l'école républicaine et l'école pédagogue. Hein. Vous savez qu'il y a deux grands axes un petit peu aujourd'hui en pédagogie. On pense qu'il y a des bonnes idées à prendre partout. Certaines sont meilleures chez les républicains, certaines sont intéressantes chez les pédagogues. Voilà, les grands principes de cette école sans écran, ce serait peut-être déjà de réhabiliter la notion d'effort, hein, puisque les neurosciences en particulier nous montrent qu'il n'y a pas d'apprentissage possible sans une partie d'effort. Le projet d'école numérique vise à tout rendre ludique. On le découvre à travers cette idée de serious games, donc jeux sérieux. Mais est-ce qu'à l'école, on doit nécessairement jouer? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de difficulté à affronter? Donc, réhabiliter la notion d'effort. Peut-être aussi réhabiliter l'ennui. On découvre aussi que le cerveau a besoin de s'ennuyer. Il y a des moments où on a besoin de rien faire, et c'est d'ailleurs pendant ces moments-là qu'on apprend. En réalité, c'est pour ça que le sommeil est si important pour la réussite scolaire. C'est qu'une poésie, on ne l'apprend pas en réalité au moment où on la lit, on l'apprend en dormant après l'avoir lue. Donc il y a plein de processus qui se font à notre insu, et tout ça peut se réaliser donc à travers une certaine notion d'ennui. Or aujourd'hui, il s'agit que les élèves ne s'ennuient jamais, parce qu'un élève qui s'ennuie, c'est un élève qui commence à ennuyer les autres et l'enseignant en classe. Donc voilà, réhabiliter l'ennui, réhabiliter l'effort. Une autre piste qui nous semble intéressante, c'est peut-être de rééquilibrer les matières académiques, artistiques et manuelles. Aujourd'hui, tout l'aspect manuel, si important pour la construction du savoir, pour les apprentissages, est totalement éludé à l'école. C'est bien sûr, les voies professionnelles ne sont pas valorisées. On n'apprend pas à travailler le bois, à cuisiner, à coudre, à jardiner. Voilà autant d'éléments qui pourraient être introduits à l'école en équilibre avec les mathématiques, le français et aussi les matières artistiques. Donc voilà, ça c'est plus des pistes générales. Et puis c'est vrai qu'après, on liste un certain nombre d'innovations non numériques.
Je rebondis sur un exemple sur la partie des matières artistiques, parce qu'il y a un point qu'on a passé sous silence dans la question pédagogique et qui est un argument, qui est l'argument massue aujourd'hui des politiques pour imposer l'école numérique, c'est le fait que le numérique va permettre de lutter contre les inégalités. Hein, c'est cette lutte contre les inégalités, c'est vraiment le fil rouge aujourd'hui de l'ensemble des politiques publiques autour de l'éducation. Hein, c'est un peu la panique, d'ailleurs, au point qu'il y a plein de choses. On dit qu'il ne faut plus donner de devoirs à la maison, parce qu'à la maison, il n'y a pas égalité des conditions pour réaliser ses devoirs. Donc, il faut tout faire à l'école. Enfin, il y a plein de choses qui se passent comme ça, ou de propositions, ou de questions autour de ça. Alors, l'égalité, bon, il y a eu un temps où c'était l'inégalité. Il y a eu un temps où c'était l'inégalité de l'équipement. Dans les années 80, quand j'étais au collège, on mettait des ordinateurs au collège parce qu'il y en avait qui avaient la chance de s'être payé un ordinateur à la maison, d'autres pas. Donc, voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, l'inégalité de l'équipement, elle n'existe plus. De la même manière, c'est pas l'inégalité de l'accès à haut débit ou je ne sais pas quoi, ce n'est plus la question. Tout le monde est équipé. D'ailleurs, les enfants, souvent, qui ont un contrôle parental moindre, on pourrait dire, sont équipés plus jeunes. Ils sont équipés dans leur chambre, donc avec tout le danger qu'on a vu tout à l'heure sur la question du sommeil, etc., plus que, on va dire, les enfants qui ont peut-être un contrôle parental plus important. Alors, du coup, l'inégalité, c'est quoi? C'est l'inégalité de d'usage, ça, c'est-à-dire de dire bah, finalement, il y a des enfants qui ont peut-être suffisamment de recul ou qui ont les parents qui leur expliquent que sur Internet, tout n'est pas vrai, que ce n'est pas forcément le premier recherche de Google qui, si vous tapez je ne sais pas quoi sur Google, ce n'est pas forcément le premier lien qui est celui qui va vous donner le meilleur, etc. Et puis d'autres qui n'ont pas ça. Et donc, il faut que l'école apprenne ça. Et donc, l'idée, c'est de dire, ah, là, bah, on va les mettre devant Internet, comme ça, on va leur expliquer Internet. Bon. Donc, lutte contre les inégalités. Et dans le livre, effectivement, dans la partie des alternatives, c'est que je reviens sur la question des activités artistiques ou culturelles, c'est finalement tous ces milliards d'euros qu'on met sur de l'équipement, donc ça nourrit juste les néo-esclavagistes chinois et taïwanais, et sur des logiciels, quelques formations un peu, mais bon, sur les logiciels, ça nourrit des actionnaires de multinationales américaines, états-uniennes, on pourrait dire, bon. Ça ne crée pas d'emploi. Ça ne crée pas d'emploi chez nous. C'est bien. Ces milliards d'euros, on pourrait les mettre et puis on pourrait mettre des profs de musique, des profs de dessin, des profs de théâtre, des profs de plein de choses comme ça, qui sont sans doute des grandes inégalités réelles, celles-là. Parce que entre le gamin des cités et puis le petit bourgeois, il y en a peut-être un qui va avoir l'occasion d'être inscrit dans une école de musique et puis de faire des cours de je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, évidemment, le numérique ne règle pas ça. Enfin, bien sûr, ça répond à des fausses inégalités. Donc nous, on dit, on vous prend au mot, on veut réduire les inégalités, les quelques milliards d'euros, on les met sur des profs de théâtre, de musique, de dessin, et puis on offre tout ça gratuitement, comme des cours entre midi et deux, ou le soir. Voilà, c'est des exemples de ce type-là, un peu provocateurs, qui montrent qu'en fait, on pourrait faire plein de choses avec les moyens qu'on met aujourd'hui sur la technologie, on pourrait faire énormément de choses, et avec par ailleurs du coup des retombées sociales pas inintéressantes, parce que là on crée de l'emploi local.
Mais le lobby des profs de musique est moins important, moins bien organisé.
Et une dernière phrase pour conclure, Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, ça date de quelques siècles, c'était pas particulièrement un technophobe, c'est lui qui a posé les bases philosophiques du progrès des savoirs qui allaient permettre à l'humanité de devenir de plus en plus heureuse. Il disait que le progrès, c'était déjà ne pas perdre ce qui a été acquis. Voilà. Et avec cette phrase-là, on pourrait se demander si effectivement on est en train de progresser et si l'école numérique, ça nous fait progresser. Et effectivement, il y a peut-être quelques trucs sympas et des trucs très très bien, mais qu'est-ce qu'on perd ou qu'est-ce qu'on risque de perdre à côté ? Voilà.
Bien, merci. Donc on va pouvoir conclure. Merci beaucoup.